Vous êtes sur RTL. Pro sur RTL.
C'est une des questions que chacun se pose. Faut-il limiter les déplacements entre les régions pendant les vacances scolaires? Marie-Cécile est avec nous. Il faut dire, Marie-Cécile, que vous êtes gérante d'un hôtel-restaurant en Gironde.
Oui, c'est tout à fait ça.
Donc forcément, votre avis, il est aussi lié à votre activité.
Ah oui, absolument. Ouais. Et en effet, ce qui est important de dire, c'est que des petites structures comme les nôtres, qui sont indépendantes, continuent d'exister parce que le tissu, parce que les déplacements continuent malgré tout de se faire, même s'ils ont été considérablement réduits. Donc, arrêter totalement les déplacements interrégionaux voudrait dire que ça serait la mort totale de nos établissements, en tout cas un arrêt extrêmement brutal.
C'est-à-dire qu'on ne tolérerait que les déplacements professionnels et peut-être... Il y a combien de chambres dans votre hôtel ?
15 chambres.
Donc en ce moment, par exemple, dans la semaine, c'est souvent des professionnels. J'imagine que ce n'est pas des vacanciers.
Que des professionnels du lundi, on va dire, au jeudi soir. Et nous avons même pris la décision de fermer le vendredi, samedi, dimanche, faute de monde. Ouais. Et bien évidemment, pour les vacances à venir, autant vous dire que nous sommes totalement vides. Parce qu'il n'y a pas de tourisme depuis l'été dernier, depuis fin septembre, fin octobre, là, que la saison est terminée. Nous n'avons plus du tout de touristes. Donc, c'est important que des hôtels comme les nôtres restent ouverts.
Bien sûr, en plus, vous êtes indépendant. C'est combien d'étoiles, votre hôtel ?
3 étoiles.
3 étoiles. Donc, c'est un bel hôtel avec le prix moyen, j'imagine, de la chambre. Oui. C'est entre 70 et 150 euros ?
Voilà, on est sur, pour le moment, on est sur un prix moyen avoisinant les 90 euros en saison basse, là, pour le moment. Et ce sont des techniciens qui viennent réparer des machines, ce sont des directeurs de société qui viennent voir leurs équipes, ce sont des gens qui travaillent, traversent la France et qui sont aussi contents de trouver donc le logement et le repas chaud le soir. Et voilà, qui font continuer de vivre l'économie locale. Je trouve que limiter totalement ces déplacements, déjà que le télétravail est, on s'en aperçoit, est une source de souffrance. Je trouve que ça serait rajouter une couche supplémentaire à notre présent qui est quand même un peu sombre. Hein,
Marie-Cécile, hier c'était la première nuit de la semaine, c'était lundi. Combien de personnes ont dormi dans votre hôtel?
Alors, hier soir, c'était un peu particulier parce qu'on a un gros séminaire qui s'est annulé vendredi soir. Nous devions avoir 15 chambres de prise sur 3 jours. Le séminaire s'est annulé vendredi soir. Donc, hier soir, nous devions être pleins et nous avions donc au final 3 chambres de prise.
Et ce soir ?
Ce soir, 5.
Et j'imagine que à 5 chambres la nuit, vous perdez de l'argent.
Ben, on en perd si je fais venir mes collaborateurs. Donc moi, j'habite sur place. C'est évidemment dans ces cas-là, moi, qui fais un peu tout. Je fais aussi l'effort de faire venir mes collaborateurs parce que psychologiquement, on risque d'avoir de très gros soucis quand on va rouvrir si on ne les fait pas travailler un minimum. Donc je fais cet effort. C'est un effort aussi financier. Et voilà, oui, on perd de l'argent parce que nos charges sont là. Alors elles sont quand même compensées par ces aides. Hein. Il faut dire que les aides sont non négligeables et nous aident à ne pas fermer. Et voilà, donc on essaye de sauver les meubles.
Ben merci en tout cas Marie-Cécile. Et effectivement, on devine l'inquiétude au son de votre voix. Merci en tout cas d'être intervenu en premier aujourd'hui. Alain est là, toujours sur ce même sujet. Faut-il limiter les déplacements entre les régions et Alain est chauffeur routier. Bonjour Alain.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Vous bougez ou pas pendant les vacances ?
Alors, j'avais prévu de bouger un petit peu, mais le fait, je voulais partir à la montagne, ça faisait plusieurs années que je n'avais pas bougé. Malheureusement, comme tout le monde le sait, les remontées mécaniques, tout est fermé. Mais je suis, moi, pour une restriction de la circulation entre les régions, parce que j'estime que toutes les mesures qui sont prises depuis quasiment un an ne parviennent pas à nous sortir du marasme sanitaire et évidemment économique dans lequel nous sommes plongés, les variants qui arrivent de droite et gauche, ces vaccins qu'on attend et qui ne viennent pas, ces annonces, etc. Je suis complètement, moi, dépité de constater on ferme un centre commercial de 20 000 mètres carrés parce que dans ceux de 10 000 et de 15 000, le virus ne circulera pas. Vous voyez, tout ça me rend j'ai un doute énorme aujourd'hui.
Un doute sur quoi?
Ben, un doute sur la compréhension de nos dirigeants, sur la situation, sur la situation réelle. Le confinement de mars dernier, je l'ai très mal vécu, comme tous les Français, et je ne suis pas convaincu qu'un nouveau confinement réglerait l'affaire. Mais par contre, il est nécessaire de prendre des mesures drastiques. Il faut les prendre. Plus on avance, malheureusement, plus la gravité...
C'est antinomique avec ce que vous dites. Vous avez mal vécu le confinement qui était précisément drastique en mars dernier, et vous souhaitez des mesures encore plus drastiques.
Eh bien, je ne souhaite pas un confinement, mais je souhaite au moins une limitation. Je pense qu'une limitation dans les régions, il y a des régions, et on le sait, qui sont plus touchées que d'autres. Je pense que la limitation de circulation, au moins d'une région à une autre, pas forcément dans la région, dans une région, que les gens puissent circuler avec un couvre-feu, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, Pascal, nous avons l'obligation de prendre des dispositions qui soient de réelles dispositions. J'entendais dire que l'Italie réouvre les restaurants, les bars, etc. Mais je pense que l'Union européenne devrait taper du poing sur la table. Nous devrions tous, d'un commun accord, nous mettre au diapason et avoir une réaction commune. On ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Et vous verrez que dans un an ou deux, on en parlera encore.
On en parlera encore, mais ce sera peut-être terminé. Il faut l'espérer, mais en tout cas, c'est une possibilité.
Écoutez, à mon sens, moi, j'estime qu'on ne fait pas aujourd'hui ce qu'il est nécessaire de faire. On ne prend que des mesurettes qui, à mon sens, ne régleront pas le problème.
Oui, mais c'est ça que je... Donc, vous voulez un confinement total?
Alors, pas un confinement total.
C'est quoi, des mesurettes? C'est quoi?
Concrètement, au moins, on empêche... Ben concrètement, qu'on empêche les gens... Enfin,
de voyager, de circuler, les gens restent dans leur région.
Exactement, d'accord. Au moins ça limite. Bon. On n'empêche pas les gens de travailler, on permet aux gens d'aller travailler, on permet aux gens d'aller faire leurs courses, parce que je sais que tout le monde a mal vécu ce qui s'est passé en mars dernier, mais il faut faire quelque chose, on ne va pas s'en sortir. Aujourd'hui, on a un vaccin contre un virus, il nous en tombe deux autres dessus, le variant africain, le variant britannique. On ne s'en sort plus. J'ai l'impression qu'on s'enfonce.
Merci beaucoup, Alain. C'est le 2 février aujourd'hui. Ben non, merci à vous de nous avoir appelés. C'est le 2 février, je l'ai dit tout à l'heure. Vive la Bretagne. Je souhaiterais une ambiance musicale qui parte de Quimper à Brest. Car honneur à la Bretagne qui a inventé la crêpe, ami. Bonjour, Greg Caranen.
Bonjour, à tous. Ça vous va, ça?
Ben évidemment, Alan Stivell, ça avait été repris par Nolwenn Leroy. Bon, la crêpe, appelez-nous pour parler de la crêpe, quelle est la meilleure crêpe?
Vous les faites au bilig ou à la poêle?
Mais moi je ne sais pas faire une crêpe, je ne sais rien faire, je vous l'ai déjà dit.
Ah d'accord.
Mais en revanche, j'adore ça les crêpes, je peux en manger des tonnes comme tout le monde. Donc, est-ce qu'on va nous appeler? Est-ce que les crêperies sont ouvertes? Est-ce que vous avez mangé des crêpes aujourd'hui? Appelez-nous quand même, c'est une information importante ça.
Du coup, vous n'avez pas de petite recette à nous confier?
Ah non.
Ah mince.
Ah non, ça, si je commence à vous donner ma recette du steak haché pomme rissolée, là, ça.
La recette du vendredi soir.
Ah oui, ça, c'est pas terrible. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Laurent Tessier, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Faut-il limiter les déplacements entre les régions pendant les vacances scolaires? Craignez-vous de ne pas pouvoir bouger? Le secrétaire d'État chargé du tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, était l'invité de RTL Midi. Il a tenu à rassurer.
Pour celles et ceux qui commencent leurs vacances vendredi soir ou samedi matin, Il n'y a pas d'interruption aux liaisons entre régions, il y a la capacité à se déplacer. Le petit Bordelais qui voudra retrouver peut-être ses grands-parents sur la côte basque pourra le faire. Le petit Dijonais qui veut aller faire de la randonnée dans la forêt d'Aude, dans l'Yonne également. Tout cela pour dire que c'est une situation à date, j'insiste, nous sommes le mardi 2 février. Pour les gens qui partent vendredi, il n'y a pas de restrictions. Mais à aujourd'hui, écoutez, en tous les cas, il est possible de s'organiser.
Avez-vous prévu de vous déplacer pendant cette période? Avez-vous envie de...
Partir.
Est-ce raisonnable de bouger quelques jours et pourquoi faire? Vos messages sur la page Facebook, RTL, les auditeurs ont la parole.
Vous voulez-vous qu'on aille? On peut aller de nulle part. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les restaurants sont fermés.
Très bon message.
Non mais c'est compliqué quand même de partir. Parce que il n'y a pas de restaurant, évidemment. Il n'y a pas toujours des hôtels. Les hôtels sont fermés parfois. Il y a... C'est pas facile quand même et en ce moment.
Votre avis est rejoint
si
sur.
Si vous allez
sur
dans les terrains de camping aujourd'hui, il fait quand même un peu frais. À la montagne, c'est pas possible. Donc.
Très bon programme.
Il va pas avoir beaucoup de gens qui vont se déplacer.
Quelques messages, Pascal, de la page Facebook, voilà, des auditeurs, auditrices qui vous rejoignent. Oui, il faut limiter les déplacements entre les régions, demande Johan. C'est du bon sens cette période. Après, voilà, on peut partir, certes, nous dirait que, mais pourquoi faire? Pas de restaurant, pas de bar. Le couvre-feu, rajoute Fred, franchement, ça ne me fait pas rêver, autant rester à la maison. Et France le répète, il fallait nous confiner et profiter des vacances scolaires. Point, c'est tout.
Merci, Laurent. Mathieu est là. Bonjour, Mathieu.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous. Faut-il limiter les déplacements entre les régions pendant les vacances scolaires?
Alors, je suis très partagé. Je vais faire un peu en même temps à la sauce Macron. Mais j'ai des arguments pour et des arguments contre. Comme d'ailleurs pas mal de sujets sur le Covid, quand je vous écoute et que je vous regarde sur vos débats, il y a souvent aussi... on a autant d'arguments pour que d'arguments contre. En deux mots, si je regarde avec le prisme de mon activité professionnelle liée au tourisme et au tourisme international notamment, je me dis, il faut empêcher le maximum de déplacements, il faut faire en sorte que le virus circule le moins possible. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on s'en sortira. Et on nous parle souvent des exemples d'Allemands, de la Belgique, du Royaume-Uni qui subissent un sort pire que le nôtre. Mais moi, j'aurais plutôt tendance à me tourner mon regard vers les pays qui réussissent mieux que nous. Et pas loin de nous, votre auditeur précédent le disait, l'Italie a rouvert. Mais il a oublié de préciser pourquoi l'Italie s'est permis de rouvrir. C'est parce que l'Italie sort d'un mois et demi de confinement total, même entre les régions. Donc, l'opération brutale qu'ils ont menée, et non pas une demi-mesure, a porté ses fruits, il semblerait-il, puisque les restaurants, les lieux de culture, les cafés ont rouvert. Et idem en Espagne, à Barcelone et à Madrid. Donc, on peut peut-être se servir aussi de ces exemples positifs de nos voisins. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, moi, mon moral est au plus bas, comme beaucoup de gens. Et si on me dit, au moment des vacances scolaires, qu'on pourra pas se déplacer, qu'on pourra pas bouger, qu'on pourra pas aller voir ses amis, ses proches, c'est encore un coup au moral qui ne fera pas forcément grand bien et que le niveau d'acceptabilité des Français, on le sait, est en train d'arriver à un niveau de saturation maximum. Donc voilà, voilà comment je vous résume mon avis qui est partagé. Je fais preuve d'honnêteté intellectuelle. Je raisonne comme professionnel, je vous dis oui, il faut le faire. Je raisonne comme personne avec un moral à zéro, je vous dis non, ça sera le bol, quoi. Un peu de liberté pendant ces vacances scolaires.
Bah écoutez, merci de ce témoignage Mathieu, et c'est vrai qu'on vous a régulièrement parce que vous êtes impacté plus qu'un autre, puisque vous accueillez des touristes étrangers que vous faisiez, si je me souviens bien, visiter Paris.
Exactement, bon, et Paris, ses alentours.
Donc voilà. Et ça fait combien de temps? Ça fait plus d'un an que votre activité est à zéro.
À zéro, à l'arrêt total, Pascal, à l'arrêt total.
Donc on prend régulièrement de vos nouvelles et je vous remercie de nous avoir évidemment appelés, mais pour vous c'est terrible parce que pour le coup il n'y a pas de solution puisque de touristes étrangers, il n'y en a pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de touristes dans Paris.
Si, Pascal, il y a une solution, c'est de ne pas prendre de demi-mesures, de prendre des mesures qui feront qu'on redeviendra attractif pour les étrangers. Si on fait la démonstration qu'on maîtrise notre politique sanitaire, qu'on maîtrise la circulation du virus, que nos vaccins aussi fonctionnent beaucoup mieux qu'actuellement, tout ça, c'est des facteurs positifs pour moi, mais qui me mettent un petit peu dans une situation de panique, parce que je vois que ce qui devrait être positif, comme les vaccins, est à nouveau, semblerait-il, pour moi, selon moi, un échec qui me fait penser au cafouillage des masques, quoi. Je me dis, on recommence les mêmes erreurs.
Oui, c'est pas qu'on recommence les mêmes erreurs, mais en tout cas, il y a des situations qui sont analogues, c'est-à-dire qu'on serait en pénurie, sans doute pas pour les mêmes raisons, d'ailleurs, parce que a priori, ce serait l'Union européenne qui nous met dans une difficulté de ne pas avoir exactement le nombre de doses. Mais enfin, oui, alors que la dernière fois, c'était l'administration française qui n'avait pas imaginé avoir assez de masques. Mais voilà, peu importe, j'ai envie de dire les raisons. La vérité, c'est qu'on n'avait pas de masques, on n'a pas de vaccin. Voilà. Merci Mathieu, bon courage.
Merci Pascal.
Bon
merci
courage bien. À vous à 13h18. Greg Caradoni.
Oui, Pascal, vous voulez une petite chanson en rapport avec la Chandeleur ?
Je me demande si vous n'avez pas autour de sur la bouche une crêpe précisément.
Pourquoi vous trouvez que je n'articule pas assez ?
Non, c'est pas ça. On a l'impression que c'est un masque, mais
aujourd'hui. Ah, la couleur !
Ah oui, c'est un masque en couleur crêpe.
Ah oui, j'essaie toujours d'adapter mon masque en fonction de l'actualité des petites choses légères.
Bien sûr. Voilà. Bon, que voulez-vous me dire ?
J'aime la galette. Savez-vous comment ?
Mais j'entendais Julien Cellier ce matin dire comment vous aimez les crêpes. Et il disait crêpe beurre, tout simplement. C'est vrai que la crêpe et la galette, là, il y a débat, bien sûr. Mais plus c'est dépouillé et peut-être plus proche, on est d'une certaine vérité. Vous ne croyez pas ?
Moi, je m'en remets à Julien qui a des origines bretonnes et je ne voudrais pas froisser la Bretagne. Donc s'il faut que ce soit dépouillé, ce sera dépouillé. Après, moi, j'aime bien quand il y a un peu de... Comment dirais-je ?
De rhum ?
Pâte à tartiner à la noisette, si vous voyez ce que je veux dire.
De Nutella ?
Voilà.
Ah oui, d'accord. Je traduis. Mais il faut faire de la pub, donc je vais citer une deuxième...
Essayez de trouver une autre marque.
Je vais citer... Bah, j'aurais pu dire Ovomaltine. Pourquoi pas ?
Ovomaltine.
À tout de suite. Vous ne connaissez pas Ovomaltine ?
Si, mais je ne suis pas sûr qu'ils fassent de la pâte à tartiner.
Eh bah, ben, ils en feront peut-être un jour.
Très bien, très bien.
Ferrero ? Non, Ferrero. À tout de suite.
Je pense que c'est aussi Nutella.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Qu'allez-vous faire pendant les vacances scolaires ? La première vague commence vendredi soir. Ça va s'enchaîner évidemment pendant un mois. Comme toujours, il y a un décalage. Sophie est là. Bonjour. Sophie qui habite la Vendée et qui va nous répondre à cette question. Faut-il limiter les déplacements entre les régions ?
Oui, bonjour Pascal et bonjour à toute l'équipe.
Bonjour.
Alors c'est toujours facile de dire pour ou contre, mais je suis plus dans un premier temps pour restreindre les déplacements, voire même ne pas les faire pendant les prochaines vacances, pour sauvegarder nos vacances d'été éventuellement. Puisque là, quand j'entends aux informations que les variants se développent aussi, par exemple en région parisienne, à un moment donné, il faut aussi éviter qu'ils se déplacent à droite à gauche et qu'on en arrive à terme à un confinement beaucoup plus drastique que ce qu'on peut connaître aujourd'hui et qui, justement, on n'en peut plus. Donc, il faut encore, à mon avis, se serrer un petit peu la ceinture et puis garder le moral haut. Mais éviter qu'on reparte encore dans des confinements beaucoup plus compliqués que ce qui est là à l'heure d'aujourd'hui, en fait.
Il semblerait quand même que, pour le moment, on soit sur un plateau haut, mais que les services de réa ne soient pas débordés et que le nombre de contaminations n'ait pas explosé. Nous sommes toujours sur un plateau haut, sans explosion.
Oui, mais il y a certaines régions qui sont moins touchées que d'autres. Pour le moment, pourquoi justement faire que les régions moins touchées deviennent après touchées parce qu'il y a des déplacements. On parlait de la civilité des gens, de la responsabilité. Moi, je travaille dans une grande surface de bricolage et je peux vous dire que les gens oublient complètement les distances à certains moments, puisque les gens sont agglutinés dans les magasins qui restent ouverts et dans les files d'attente, les gens oublient complètement toutes les précautions.
Bon, qu'est-ce que vous êtes en Vendée, hein.
Oui.
Donc, c'est quelle zone, la Vendée? Je ne sais pas si vous avez des jeunes enfants encore, Sophie, qui sont à l'école.
J'ai une petite fille de 5 ans et un garçon de 11 ans.
Donc, à vous, je pense que vous ne serez pas en vacances avant le samedi 20 février, je pense.
Tout à fait, exactement.
Vous êtes la dernière zone qui partira, c'est la zone B, jusqu'au lundi 8 mars. Donc, vous avez encore 15 jours à patienter. Vous aviez prévu de voyager cette année ?
Non. Non, du tout. Même là, vous voyez, pour l'été, c'est, on ne sait pas du tout, on ne se projette pas. On a beaucoup de mal à se projeter. Donc, pour le moment, bah, les vacances, c'est garder les enfants, essayer de les occuper, mais on ne fait rien d'autre, quoi. On ne bouge pas. Donc, je sais que c'est compliqué pour tout le monde.
Oui, alors, mais, c'est moins compliqué peut-être pour vous, parce que vous êtes vendéenne. Je ne sais pas où vous êtes en Vendée.
Alors, je suis parisienne à la base, donc oui. Je connais très bien la région parisienne. Et maintenant, en Vendée, je suis sur La Roche-sur-Yon.
Bon, La Roche-sur-Yon, donc vous êtes à moins de 50 km des Sables d'Olonne.
Tout à fait.
Vous avez sans doute une maison.
Oui.
Donc, quand on a des enfants avec une maison et qu'on est en Vendée, forcément, ce n'est pas la même chose que ceux qui sont dans le nord de la France et qui espèrent l'été partir sur une plage ou dans l'océan ou aller dans le sud. Forcément, vous pouvez un peu attendre parce que à la limite, vous pouvez aller cet été, les Sables d'Olonne, c'est formidable, par exemple, pour passer des vacances. C'est agréable.
Oui. Ça, je le conçois, mais c'est juste sur ces vacances-là où je dis, il faut encore qu'on reste un petit peu dans nos carrés, qu'on respecte bien tout ce qui est mis en place, pour que justement pour l'été, en espérant que tout aille mieux, que chacun puisse se déplacer comme il veut. Mais je trouve que c'est trop tôt là maintenant.
Non, mais les déplacements, vous avez raison. En plus, les déplacements, je ne veux pas dire que ce n'est pas trop contraignant, mais j'ai l'impression que d'abord, c'est sans doute assez efficace. Et dans les mesures qui sont mises en place, c'est peut-être une des mesures qui est la moins contraignante, me semble-t-il, que le couvre-feu, que les restaurants fermés, que les cinémas fermés, que les lieux de culture fermés, etc. On peut peut-être, pendant effectivement quelques temps... s'empêcher d'aller en vacances tout simplement et de rester chez soi. Bon, je dis ça et puis ceux qui sont dans des petits appartements avec des enfants, ils seraient peut-être bien contents aussi de pouvoir bouger quand arrivent les vacances de février.
Ah oui, non mais ça je tout à fait. C'est pour ça que je dis c'est toujours facile de dire pour ou contre parce qu'on regarde ça paroisse. Mais ceci étant, il faut penser à l'après. Et moi, je vois surtout, pour tout le monde, les vacances d'été où j'espère que le soleil sera au rendez-vous, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, dans ces cas-là, on aura vraiment envie de profiter, chacun et chacune, des extérieurs.
J'entends bien.
Voilà, c'est un petit peu de prudence, un petit peu de patience pour, au contraire, gagner de la liberté dans pas longtemps.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Sophie, de cet excellent témoignage et bonne journée du côté de la Vendée.
Sous la pluie. Une bonne journée à vous aussi.
Ah, la Vendée sous la pluie. Vous connaissez la Vendée, Greg Caradani ?
Je suis allé une fois à Saint-Jean-de-Mont.
Saint-Jean-de-Mont, ça existe. Voilà. Est-ce que vous connaissez Bretignolles-sur-Mer ?
Je ne connais pas, non.
Ah, Bretignolles-sur-Mer. C'est magnifique, Bretignolles-sur-Mer. La Sauzet. Vous ne connaissez pas tous ces endroits-là ?
Non plus. Non, ça s'est arrêté à Saint-Jean-de-Mont.
Oui, Saint-Jean-de-Mont, c'est bien aussi. Bon, chère Sophie, il y a toute leur éducation à faire, les jeunes gens.
Bonne journée à vous.
La pub, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal
Pro. On va changer de sujet dans... quelques secondes,
musique,
c'est quoi
le suspense.
Qu'est-ce que c'est ?
Le teasing des autres sujets. Pascal.
Vous êtes à chaque jour, Pascal ?
Bonjour, Laurent Tessier.
Bonjour. Ça fait quand même 3 mois qu'on met cette musique. Hein.
Comment ça va ?
Voir plus.
Non, mais je pensais que j'allais parler avant. Surtout, elle a vu après la musique.
Non, on est comme ça. On change les règles dans l'émission.
Bonjour Laurent.
Bonjour Pascal Pro, bonjour à tous.
Vous êtes venu sans crêpes en plus, franchement, vous auriez pu apporter quelques petites crêpes.
Écoutez, j'ai 45 minutes pour les faire, bon. C'est un défi. Désormais, si un élève de maternelle est testé positif au Covid-19, ses camarades de classe seront considérés comme cas contact. Il leur sera demandé de rester chez eux pendant 7 jours. Un nouveau protocole sanitaire présenté par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer.
Désormais, on fermera une classe systématiquement quand il y aura un cas à l'école maternelle, parce que les enfants d'école maternelle n'ont pas de masque et donc la contamination peut se déployer davantage. Et on reste toujours à 3 cas à l'école élémentaire, sauf quand on identifie un variant plus contagieux, et dans ce cas c'est dès le premier cas que l'on ferme la classe. Ça va probablement déboucher sur plus de classes fermées.
On va manquer de nounous dans pas longtemps à ce rythme, écrit Baptiste sur la page Facebook de l'émission. Et on fait comment pour garder nos enfants en cas de fermeture de la classe, demande Alexandre. Laissez-les tranquilles, s'énerve Thierry. Parents, enseignants, directeurs d'école, appelez-nous dès maintenant au 3210 pour nous donner votre avis. Ainsi que sur la crêpe que vous avez dégustée pendant que je parlais.
Exactement, c'est Rachel qui est la responsable du système qui m'a apporté une excellente crêpe que je viens de manger.
Et nous ?
Et vous, vous n'en aurez pas. 13h31, Céline est avec nous. Bonjour Céline.
Bonjour Pascal.
C'est un excellent sujet que ce dont parlait à l'instant Laurent. Un élève de maternelle, testé maternelle, c'est quand même avant 6 ans, hein, nous sommes d'accord. Donc entre 3 et 6 ans, puisqu'il y a généralement 3 années de maternelle hein, aujourd'hui. Parfois 4, mais au moins 3. Donc là, un élève est testé et donc toute la classe est considérée comme cas contact. Donc, je voulais votre avis là-dessus. Vous êtes maman au foyer et vous habitez en Loire-Atlantique, Céline.
C'est ça, maman de 3 enfants, 2 en maternelle dans des classes différentes et 1 en primaire. Donc, autant vous dire que cette idée de confiner une classe entière est une fausse bonne idée. Car si une de mes filles, donc en maternelle, est cas contact, elle fait aussi cas contact avec la deuxième. Et il fera aussi cas contact avec son frère aîné qui est au primaire. Donc, ça ne sert strictement à rien, à part fermer des écoles.
Bah, c'est toujours pareil, c'est le principe de précaution poussé jusqu'au bout du bout. Mais c'est vrai que les enfants ne sont pas les cibles prioritaires de ce virus. Et c'est vrai que c'est une mesure... Moi, ça m'a surpris. Hein, quand j'ai entendu ça, pour tout vous dire, j'ai été surpris. Bon, en même temps, il faut protéger la santé. Peut-être que les parents le demandent. C'est intéressant d'ailleurs d'avoir votre avis, puisque vous êtes parents, vous avez 2 élèves en maternelle.
Mais combien d'enfants sont asymptomatiques et qui sont à l'école actuellement?
Je sais.
Combien?
Je sais.
S'il veut faire ça, qu'il teste d'abord tous les enfants pour voir où on en est aujourd'hui.
Mais oui, mais si on teste tous les enfants, il faut les tester tous les jours, ça sert, vous voyez ce que je veux dire.
Non, mais juste une journée, juste pour voir s'il veut s'amuser. Parce qu'il va fermer une semaine, et puis la semaine d'après, il va y avoir un nouveau cas contact et tout. Parce qu'à la maison, c'est un bouillon de culture. Hein. J'ai un fils donc, en primaire, 2 en maternelle dans des classes différentes, et j'ai un mari qui travaille en ville et qui est kiné. Donc, pour vous dire un petit peu toutes les personnes qui peuvent être cas contact à la maison, il n'y a que moi, finalement. Il bouge pas, donc il n'y a pas de problème.
Bon, c'est le dernier protocole sanitaire qui est publié par le ministre de l'Éducation, l'apparition d'un cas... Oui, bah, bien sûr. Une nouvelle mesure décidée après l'apparition de variants du Covid-19. Hein, c'est la motivation. Concrètement, il sera demandé à tous les élèves de la classe de rester chez eux pendant 7 jours, ce qui revient à une fermeture de la classe sur la période. Et c'est ce qu'on a indiqué au ministre de l'Éducation. C'est vrai que c'est toujours pareil. Je me mets à la place des parents qui ont 2 enfants en école maternelle, comme vous. Comment vous allez faire l'avantage, vous travaillez...
Je suis mère au foyer, donc finalement, l'un dans l'autre, c'est pas un problème.
Ouais.
Je suis pas dans la pire des situations. Il y en a qui... moi, j'ai une amie qui a 2 enfants en maternelle, classe différente aussi. Ça va être pareil. Ça va être... Si demain il y a une classe de fermée, elle va être en télétravail de manière assez régulière. Ça va être horrible pour elle.
Bon, parlons avec Sébastien. Restez avec nous, Céline, parce que vraiment, pour tout vous dire, on va essayer d'appeler un pédiatre pour qu'il juge cette mesure. Est-ce qu'elle est importante sur le plan médical? Sébastien est avec nous, qui est routier. Bonjour.
Bonjour, Pascal.
Et vous écoutiez Céline. Quel est votre avis?
Oh ben moi, c'est à peu près la même chose que Céline. Je me pose la question, pourquoi ils pondent ça 6 jours avant les vacances?
Parce que le variant anglais a fait changer les choses et il y a une inquiétude. Peut-être que ce sont les parents également qui ont réclamé ce type de mesure. C'est uniquement pour ça.
Alors, ce serait pas plutôt parce que les gens vont se déplacer pour les vacances, pour souffler, pour profiter. Donc, se mélanger plus, et là on rebondit sur votre premier sujet, ça veut dire que malheureusement ça va être exponentiel au niveau de la maladie, et nous confiner au retour des vacances.
Souvent, si vous nous écoutez régulièrement, moi je suis ni complotiste ni paranoïaque. Je n'imagine pas qu'aujourd'hui on puisse prendre une décision en pensant à la prochaine qu'on prendra dans 15 jours. Je n'imagine jamais ça. Mais peut-être que je suis naïf. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y a dans la tête de nos dirigeants, aujourd'hui on fait ça parce que dans 15 jours on fera autre chose. Je crois qu'ils gèrent au jour le jour ce qui finalement n'est... ce qui peut se comprendre. On peut entendre ça puisque les choses changent quotidiennement, en tout cas quasiment d'une semaine à l'autre. Donc ça ne me gêne pas. Qu'on s'adapte, qu'on soit pragmatique.
Donc ça veut dire, Pascal, qu'il gère sans aucune anticipation. C'est quand même grave, là.
Mais qu'est-ce que vous voulez anticiper ? Vous savez, vous, ce que ce sera le 15 mars, le variant ?
Ah ben, si les gens peuvent se déplacer, qu'on bloque les écoles, alors déjà, ça va être compliqué pour les gens en télétravail, pour les gens comme moi qui suis en déplacement toute la semaine et mon épouse qui travaille dans le médical. On va avoir un gros souci pour garder nos enfants. Déjà. Mais si on laisse les gens se promener et tout, on sait ce que ça va donner. On a déjà l'expérience de l'année dernière.
Oui, mais qu'est-ce que vous voulez dire ?
Mais donc, il nous prépare un prochain confinement.
Mais
Parce que les vacances sont dans 6 jours.
Mais je veux dire, Sébastien, s'il nous le préparait, comme vous le dites, pourquoi ne l'aurait-il pas fait vendredi dernier ? C'est qu'il y a une volonté de ne pas confiner chez le président de la République. Hein. Autrement, il l'aurait fait vendredi.
Mais il faut que l'économie fonctionne, Pascal. On va pas encore la ruiner une deuxième fois.
Mais pardonnez-moi, mais on parle pas de la même chose. Vous me dites, il nous prépare un confinement. Mais je réponds, si vous êtes dans cette logique-là, pourquoi ne l'ont-ils pas fait vendredi ?
Parce que le confinement qui nous prépare, c'est on va bosser du lundi au vendredi et le samedi dimanche, on sera confiné. Pour que l'économie ne souffre pas trop.
Bah, oui, donc Céline vous répond.
Vous dites qu'ils n'anticipent rien. Moi, je trouve que par contre, les professeurs anticipent, vous voyez, parce que depuis septembre, donc classes différentes, maîtresses différentes, et hier soir à 22h et des bananes, j'ai reçu un mail de la maîtresse de mon fils qui est en primaire, qui préparait un site sur Internet pour faire les devoirs à distance.
Mmh. Oui, bah, comme alors, au mois de mars l'année dernière.
Voilà, alors, Pascal, vous êtes bien gentil, mais là, il y a quand même de l'anticipation de la part des professeurs. Ils s'anticipent un confinement, c'est obligé. Là, ce qu'ils vont nous pondre, je n'en mettrai pas ma main coupée, c'est qu'on va avoir 3 semaines de vacances.
Mais c'est drôle ce que vous dites, parce que d'abord, ce que vous dites est possible, mais je vous le répète, si par exemple, les chiffres restent comme ils le sont aujourd'hui dans un plateau haut, il n'y aura pas de confinement. Moi, je vous le dis, ça j'en suis sûr, puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets. En revanche, si les chiffres explosent, si le taux de réanimation, le taux de présence en réanimation augmente fortement, ou si les hôpitaux sont en tension maximum, à ce moment-là, il y aura un confinement.
Mais il va y avoir une nouvelle échelle de valeur, ça va être le nombre de classes fermées.
Bah, ça, je...
Parce que là, le nombre de classes fermées à cause...
Ça, c'est encore autre chose. On restait sur le confinement. Je vous propose de rester tous les deux parce que c'est intéressant d'échanger avec vous deux sur ce sujet. En plus, et on va essayer d'avoir également, je vous l'ai dit, un pédiatre, pourquoi pas, qui nous valide ou pas, d'ailleurs. Parce que, franchement, des enfants entre 0 et 6 ans qui sont positifs. Est-ce qu'il faut fermer toute l'école pour ça, toute la classe pour ça ? À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud. Flavie Flamand.
C'est tout à l'heure, juste après les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec vous, Pascal Praud.
Et Sébastien est toujours avec nous, avec Céline. On parle évidemment de cette mesure qui pourrait toucher un élève de maternelle. S'il est testé positif, ses camarades de classe seront considérés comme cas contact. On est avec Sébastien et Céline. Et ce que je remarque, et c'est souvent le cas, bien sûr, dans nos échanges avec Sébastien notamment, c'est la défiance que vous avez sur ceux qui nous gouvernent et de penser, et Céline aussi était sur cette ligne, de penser qu'ils préparent autre chose que ce qu'ils sont en train de mettre en place aujourd'hui, Sébastien.
Mais j'espère qu'ils préparent autre chose. J'espère qu'ils anticipent et que malheureusement.
Mais je vous répète, on peut pas anticiper. C'est ça qui est. Comment voulez-vous anticiper sur ce variant ?
Alors, je vais vous donner un exemple, Pascal. Vous voyez, je roule toute la semaine. Je fais la France de long en large et en travers. Je peux vous assurer, et je reprends encore l'exemple de ce midi dans une station-service d'autoroute, la seule personne qui rentrait sans masque et qu'on n'avait rien à faire, c'est une personne de plus de 75 ans.
Mais quel est le rapport ?
C'est souvent ce que je vois. Et ben malheureusement, c'est des personnes sensibles.
Oui, mais quel est le rapport avec l'anticipation ?
Ça veut dire qu'ils vont tomber malades, donc automatiquement, ils ont intérêt d'anticiper ce genre de choses.
Et comment voulez-vous anticiper une personne qui ne met pas son masque ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? C'est la responsabilité individuelle de chacun. C'est ce qu'a dit le président de la République. Il y a un moment, l'État ne peut pas tout. il y a un moment, c'est quand même les uns et les autres qui doivent faire attention. Pourquoi pas ne pas se déplacer, ne pas faire de dîner chez soi avec plus de 3 ou 4 personnes, ne respecter les gestes barrières. On ne peut pas d'un côté demander à être responsabilisé et puis de l'autre côté demander que l'État fasse tout pour nous.
Bah, c'est surtout être civique, penser
mais
aux autres.
Mais je suis d'accord avec vous, mais ça c'est de la responsabilité individuelle, Sébastien.
Oui, mais il faut que l'État il anticipe ce genre de choses. Il n'a pas anticipé les masques, il n'a pas anticipé plein de choses. Là, il a la possibilité de mettre un
bon,
pas en
tout
avant.
Cas,
c'est quand même bien.
En tout cas, Edwige Gentil nous a rejoint et donc on va l'avoir dans une seconde parce qu'elle est pédiatre et elle va nous dire ce qu'elle pense précisément de cette mesure. Madame Antier, bonjour.
Oui, bonjour.
Je ne vous présente pas, chacun vous connaît. Vous êtes pédiatre, vous intervenez depuis si longtemps sur les ondes. Un élève de maternelle est testé positive. Ses camarades de classe seront considérés comme cas contact. Il leur sera demandé de rester chez eux pendant 7 jours, ce qui revient à une fermeture de classe. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bien, j'ai compris que cela pouvait surtout concerner les cas de variants.
Si vous êtes positif au variant ou au Covid, hein, ça vous êtes positif.
Mais c'est la peur du variant qui entraîne.
Je suis d'accord, c'est ce que nous disions. Je suis d'accord.
Voilà, parce que jusqu'à présent, on a vraiment constaté que les enfants sont rarement contaminés et rarement transmetteurs. Et on le voit en pratique. En pratique, on a très peu d'enfants qui reviennent PCR positifs et très peu d'enfants qui contaminent les autres. Donc on était vraiment au contraire très rassurant. Et là, cette nouvelle directive arrive alors qu'un cas va être détecté. Mais je pense qu'il va falloir affiner parce qu'à la PCR, on peut se rendre compte s'il faut faire un séquençage et si ça peut être un variant ou pas. Donc, pour moi, là, ils sont très prudents, mais ça va quand même être...
Et vous aussi, vous êtes très prudente, Madame Antier. J'arrive pas à savoir si vous trouvez cela une bonne solution ou une mauvaise solution, ou en tout cas une solution, au fond, de trop grande prudence, de trop grande précaution.
Absolument. Pour être très claire, je trouve qu'elle devrait être affiné, c'est-à-dire un cas de PCR positif, tout de suite s'accélérer pour savoir si c'est un variant ou pas. Mmh. En attendant le résultat, on est bien obligé, en effet, de fermer la classe, parce que s'il y a plusieurs cas dans la classe, le variant, il va très, très, très vite. Donc, cette recommandation est compréhensible à cause de l'arrivée des variants, à cause du fait qu'ils peuvent peut-être, on n'est pas encore tout à fait sûr, mais plus être lâchés les enfants et plus être contagieux d'enfants à l'autre, ça on ne le sait pas. Donc, dans la mesure où il y a des variants, on ferme la classe pour un cas, mais il va falloir vraiment, à mon avis, conditionner ensuite un meilleur dépistage spécifique des variants. Je pense que quand on saura vraiment dépister est-ce que c'est un variant ou pas, on réservera la fermeture de la classe aux variants et on continuera d'attendre 3 cas pour les non-variants.
Ben merci beaucoup Edwige Gentier, merci beaucoup. Et puis Sébastien Céline, on va vous dire au revoir après la pub.
13h, 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. 13h, 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et toujours Laurent Tessier.
C'est la Chandeleur.
Quand on fait des crêpes chez nous, maman nous invite.
Ça, c'est pas terrible quand même.
Allez, moi quand même.
Non, je préfère des chansons bretonnes
chanson
à ça.
Française.
Non, mais ça, c'est pas terrible.
Allez vous faire des crêpes ce soir.
Ah bon.
Sophie n'attend pas la Chandeleur pour faire des crêpes. Hein, c'est au moins une fois par mois. Chez Thierry, tous les midis, c'est crêpes parties. Je remplace le sucre par des morceaux de banane. On va encore grossir, hein, nous dit Christian. Après les bûches de Noël, les galettes, ce n'est pas grave. Hein, ça donnera du travail aux diététiciens. Et le rituel pour Bernard, ça va vous faire plaisir, Pascal. Déguster de bonnes crêpes avec une ambiance de circonstance.
Ça, on mange des crêpes dans cette... Voilà comment on mange des crêpes. Ça, c'est Alan Stivell. Une...
Alors je le précise pour tous les Parisiens et ceux qui ne connaissent pas forcément Paris, autour de Montparnasse, il y a énormément de crêperies. Donc si aujourd'hui vous voulez manger des crêpes, vous allez rue de l'arrivée, rue du départ.
Je pensais qu'elles étaient fermées.
Comment ?
Je pensais qu'elles étaient fermées.
Non, mais c'est en click and collect, évidemment, j'imagine. Bien évidemment, aujourd'hui, j'espère en tout cas que tous ces restaurateurs peuvent vendre leurs crêpes, et aujourd'hui plus qu'un autre jour. Merci Céline. Merci, vous avez été convaincue par le docteur Edwige Gentier. Oui, moi je suis un peu comme vous, je l'ai trouvé d'une très grande prudence.
Elle va pas s'engager.
Voilà, j'ai trouvé d'une très grande prudence, effectivement.
Mais il est certain que, j'espère pour nous qu'il prévoit plusieurs solutions. Ils n'attendent pas de voir ce qui se passe, mais que...
Oui, mais quand ils n'attendent pas de voir ce qui se passe, on leur reproche de prendre des mesures prophylactiques qui peut-être sont...
Bien géré niveau crise. Enfin, je trouve pas ça terrible.
Ben, y a des choses qui sont mal gérées, ça on est d'accord, mais il y a des choses sur lesquelles c'est difficile de faire autrement. Par exemple, là, la situation de vendredi dernier, je trouve que la solution d'Emmanuel Macron est plutôt intelligente d'attendre et de ne pas avoir reconfiné alors qu'on n'a pas tous les chiffres. De donner une chance, comme il l'a dit, que chacun se responsabilise.
Mais là aussi, je suis allée chercher du pain à la boulangerie ce matin. C'est écrit sur la porte, pas plus de 5 clients dans la boulangerie. Je me permets d'attendre que la 5e personne sorte pour rentrer. Il y a une dame qui me suit, donc on se trouve à 6, voire 7, 8, parce que ça va continuer. Et la dame me colle.
Et qu'est-ce que vous lui avez dit ?
Mais je lui ai dit, faut se détendre, quoi. Je dis, vous pouvez vous éloigner. Enfin, je commence à l'ouvrir. Hein. Avant, je disais rien et tout, mais là, maintenant...
Et qu'est-ce qu'elle vous a dit ?
Elle a fait genre qu'elle n'entendait pas, vu son âge.
Ah oui, c'était une vieille personne.
Voilà, qui n'a rien d'autre à faire à midi d'aller chercher le pain, j'ai envie de vous dire.
C'est extraordinaire, elle a le droit d'aller chercher le pain à midi, quand même.
C'est comme les retraites qu'on fait les courses le samedi, hein, ils ont tous les droits, hein, ça y a aucun souci. Hein.
Ça faisait longtemps, c'est les vieux contre les jeunes. Ils ont le droit, chacun fait ce qu'il veut quand même, Céline. Les retraités ont le droit de faire leurs courses le samedi et d'aller chercher le pain à midi, quand même.
Pascal, est-ce que c'est vous qui faites les courses à la maison ?
Ça m'arrive, oui. Bien sûr. Et en plus, j'aime bien ça, faire les courses. J'aime pas faire la cuisine, mais j'aime faire les courses. Je trouve ça agréable d'aller dans les grandes surfaces.
Vous faites les courses dans un centre commercial assez grand, je vais pas donner de marque, mais une grande surface ou genre...
Ça dépend. Le week-end, je suis dans une très grande surface. J'aime bien, j'adore me balader dans les rayons. Et puis le week-end, du lundi au jeudi, c'est toujours des petites surfaces.
Et donc, voir des personnes âgées qui ont forcément le temps en semaine, boucher les rayons, en train de papoter parce que c'est le lieu pour faire un rayon de Tupperware, entre deux concerts, c'est sûr que c'est le moment.
Et Céline, demain, vous habitez où, Céline ? Vous habitez en Loire-Atlantique, où est-ce que vous habitez ?
Bouguenay.
Demain, vous venez au micro d'RTL, c'est vous qui animez l'émission, d'accord ? Et puis vous allez interroger, vous allez poser
vous
les questions. Mais non, vous allez poser les questions comme vous le faites avec moi et vous direz « Alors ?» Non mais franchement, midi, quel âge vous avez ? Vous avez cherché le pain à cette heure-là ? Non mais oh !
Mais c'est évident, mais je suis sûre que je ne suis pas la seule. Hein.
Ah ça, j'adore cet argument aussi, je suis sûre. Mais évidemment que vous n'êtes pas la seule, mais bon, il faut bien qu'elle sorte. Bon, et comment ça s'est terminé avec la...
Je suis parole d'évangile, Pascal, enfin.
Comment ça s'est terminé avec la dame ?
Elle a fait ça, j'ai pris mon pain, je me suis barrée.
Ah bon, j'ai pas entendu. Vous avez pris votre pain et vous êtes barrée ?
J'ai pris mon pain, j'ai payé, et puis j'ai bien fait... Mon masque, parce que l'avantage du masque, c'est qu'on peut bouger.
Ça marche plus, là. On vous entend mal. Vous avez dû bouger parce que ça marche mal.
Bon. J'ai bougonné derrière mon masque. Elle n'a pas dû toper le truc et puis c'est passé crème.
C'est passé crème. C'est nouveau, ça, comme expression. Passé crème. Ça a combien de temps, ça ? C'est passé crème.
Allez dire ça à mes parents qui sont des personnes âgées, comme quoi c'est vieux. C'est récent.
C'est récent.
C'est pas très récent, non.
Bon, Céline, on va se laisser, on va se quitter.
Oui, moi j'allais faire mes tourtisseaux, vous voyez.
Vos quoi ?
Mes petits sous.
Tes petits sous ?
Des tourtisseaux.
C'est quoi des tourtisseaux ?
Des tourtisseaux, alors ça a d'autres noms, Botro.
Ah, les Botro !
Voilà.
Ah, les Botro, ma grand-mère faisait des Botro en Vendée.
Ben voilà.
Ça, c'est des gâteaux, c'est ce qu'on appelle des étouffes chrétiens. T'en manges deux et t'es pas malade d'ailleurs, mais t'es bien rassasié.
Tout dépend comment ils sont faits.
Et il y a des trous dedans. C'est ça qui est bon.
Quand
il y a
des trous. Ils sont gonflés, oui.
Exactement, ils sont gonflés. Merci Céline.
Je vous en prie, bonne journée.
Merci Céline. Bouguenet dans la banlieue de Nantes.
Je vous imagine aller acheter vos petits légumes et les peser vous-même dans les grandes surfaces.
Vous voulez que je vous dise, l'histoire de peser là, c'est un truc de fou parce que t'arrives devant une sorte de tableau où t'as plein de légumes, de figures de légumes, de dessins de légumes, etc. Et tu dois appuyer sur le truc pour faire peser. Ça, c'est un enfer. Mais autrement, il y a des trucs plus simples.
Ça vous plaît pas, j'étais sûr que ça vous plairait ça.
Si, c'est bien. 13h55, il reste combien de temps? 2-3 minutes encore avant le journal de 14h, La Chandeleur avec Christine. Bonjour.
Oui, bonjour Pascal.
Bonjour, vous habitez Versailles?
Absolument.
Bon, et vous faites des crêpes une fois par semaine?
Absolument, et je suis ravie de partager ce sujet qui est léger et gourmand avec vous et sur l'antenne en ce climat très anxiogène avec des sujets récurrents qui nous déprime. Je suis ravie que vous ayez mis sur la table le sujet des crêpes.
Bon, combien vous en mangez?
Moi, à chaque fois que j'en fais, trois.
Ah oui, vous êtes. Mais alors, c'est des crêpes mastoc, si j'ose dire, parce que trois crêpes,
non,
c'est pas beaucoup.
Non,
c'est
pas
des
du
crêpes
tout.
Légères.
Sur des crêpes classiques, mais absolument pas des galettes, hein, des crêpes avec la farine de froment. Mais mon plaisir, c'est de les faire aussi pour mes enfants, enfin mes petits-enfants, pour qui j'ai institué un rituel, et je leur en fais une fois par semaine, et je leur en apporte. Alors, ils sont 5, donc j'en fais à peu près 25. Et ils sont ravis. Voilà,
5 chacun.
Voilà, c'est ça. Enfin, après, ils se débrouillent, je ne suis plus là pour assister à ça, mais. Je trouve que c'est un moment très sympathique.
Non, mais je suis d'accord avec vous, et c'est très très bon, évidemment, les crêpes. Donc vous avez une recette particulière?
Écoute, c'est une recette toute simple que je n'ai pas inventée, je ne sais pas de qui elle tient, peut-être de ma mère à l'époque. 200 g de farine, 1 ml de lait entier, 2 œufs, bon, éventuellement de la fleur d'oranger, et une petite pincée de sel. Voilà, c'est tout.
Et après, on fait. Pourquoi les crêpes?
Un super robot, ça facilite la vie.
Un super robot?
Ouais, je ne veux pas citer de marque, vous savez.
Mais, vous mettez dans tout. Le robot pour. Mais tout, pourquoi tout. Les crêpes des crêperies ne sont-elles jamais de la même texture que les crêpes faites à la maison?
Alors, moi, j'ai savouré des crêpes du côté de la Baule, elles étaient absolument excellentes. Évidemment, ça vient des produits. Alors, quelle est la différence? Je pense que les bonnes crêpes sont toujours faites à base de lait, peut-être un petit peu de crème fraîche, alors que les crêpes qu'on achète, effectivement, ou dans les petites crêperies du côté de Montparnasse, sont faites à l'économie, c'est-à-dire avec beaucoup d'eau.
Vous connaissez les crêperies de la Baule, vous avez dit dans...
Alors, je ne sais pas les noms.
Parce qu'il y a une... Alors, je vais vous raconter une anecdote, c'est qu'entre...
Ah oui, à la sortie de la Baule, là, rappelez-moi le nom.
Ah, ça y est, c'est Nicolas Sarkozy qui, allant régulièrement à la Baule, avait fait entrer une crêperie dans le guide Michelin qui a désormais 1 ou 2 étoiles, ou 1 ou 2 macarons, je ne sais plus. Et c'était parce que le président de la République, à l'époque, il était président de la République, il trouvait que c'était absolument formidable. Donc il avait tout fait pour faire la publicité, paraît-il, de cette crêperie.
Qui a dû le remercier.
Bah, bien sûr.
Mais c'était pas le Dervin?
Alors, il y a le Dervin, effectivement. Alors, le Dervin, c'est une crêperie que les Baulois connaissent, qui est du côté du Croisic. Et effectivement, il y a l'été, il y a 2 heures d'attente. Parce que, évidemment, il n'y a pas de réservation possible. Je vous dis ça, j'y allais quand j'étais enfant. 13h59, merci Christine, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RT.
14h01.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Pourquoi les crêpes vendues, faites dans les crêperies, ont-elles une texture différente des crêpes qui sont faites à la maison? Yvan, vous êtes crêpier. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Oui.
Et pourquoi? Vous allez nous le dire. Suspense! Yvan?
Oui.
Oui, bah vous allez nous le dire, je disais. À tout de suite. Olivier Bois.
L'entraîneur de l'Olympique de Marseille, André Villas-Boas, annonce qu'il a présenté sa démission. Il affirme être en désaccord sur un choix du mercato. Dans un contexte tendu, hein, après l'intrusion des supporters ce week-end dans le centre d'entraînement, je ne veux rien de l'OM, pas d'argent, je veux juste partir, a-t-il dit ce matin en conférence de presse. L'Agence régionale de santé d'Île-de-France affirme que le variant anglais gagne du terrain à 15 à 20% de l'épidémie la semaine dernière et craint donc une accélération si rien de significatif n'est fait. Les mesures vont en tout cas se renforcer dans les écoles primaires, dans les écoles maternelles, pardon. Désormais, quand un seul élève sera positif, la classe sera fermée directement, les autres élèves placés à l'isolement pendant 7 jours. Le vaccin Pfizer-BioNTech devrait rapporter 15 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2021. Selon les deux laboratoires, c'est un des records dans l'histoire de la pharmacie. À propos des vaccins, Sputnik V, le vaccin russe, serait efficace à 91% selon une étude parue dans le magazine The Lancet. Et c'est ce soir que la France doit donner ses préconisations pour l'utilisation du vaccin AstraZeneca, dont l'Allemagne, on le sait, pense qu'il n'est pas efficace pour les plus de 65 ans. 90 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en France en 2020. Un chiffre en baisse par rapport aux 146 féminicides de 2019 pour Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice. Ces résultats sont modestes mais porteurs d'espoir. La météo, la pluie demain sur un quart nord-ouest du pays et entre Bordeaux et Limoges, des éclaircies dans l'ouest et en Île-de-France. Ce sera un beau soleil entre le Pays Basque et la Méditerranée. Et puis le quintet à Vincennes, l'arrivée provisoire à l'instant, le 11, le 4, le 10, le 7 et le 14.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
D'abord, je vais présenter mes excuses à Olivier Bois parce qu'il a peut-être été distrait pendant son flash, mais on a eu irruption. Vous êtes d'accord, Greg Caranossini? Il y a eu irruption dans ce studio. Ouais. J'ai rien compris de la personne qui est venue dans ce studio et qui m'a dit quelque chose à l'oreille. Il m'a demandé de ne pas le citer, donc je ne le cite pas. Peut-être qu'à l'antenne, vous l'avez vu.
Je n'ai rien compris.
Il m'a dit, on parle à propos des crêpes. Il m'a dit, mais tu dis n'importe quoi. La Chandeleur n'a rien à voir avec les crêpes. Les crêpes bretonnes, c'est autre chose. Je n'ai rien compris à ce qu'on m'a dit. Paraît-il que les crêpes de la Chandeleur ne sont pas les crêpes bretonne.
En tout cas, vous l'avez mis dans une très grande colère, Pascal, c'est vrai.
Vous croyez?
Ah oui, il est parti furax.
Mais
c'est une personne d'origine bretonne qui travaille dans la rédaction, vous voulez dire?
Il m'a dit de ne pas citer son nom.
Je ne l'ai pas fait.
Donc, simplement, je me tourne vers Yvan, qui habite Pont-l'Abbé, dans le Finistère. Les crêpes de la Chandeleur, ce n'est pas la même chose que les crêpes bretonnes, Yvan?
Ben bien sûr, les crêpes restent les crêpes. Hein, que
ce mais soit, alors, il y aurait, paraît-il, une tradition de Chandeleur, ce ne serait pas la même pâte, me disait-il. Et il me disait que nous faisions fausse route depuis une dizaine de minutes.
Non, au niveau national ou international, la crêpe reste la crêpe. Après, il y a différentes façons de faire des crêpes, soit la poêle, soit sur bilique. Moi, je suis professionnel, donc on travaille sur bilique, mais souvent, les ménagères, ils travaillent avec une poêle. Donc, ils ont une crêpe un petit peu plus épaisse, voilà.
Bon, je vais poursuivre l'enquête, mais puisque cet homme, que je ne citerai pas, est passé également en régie, est-ce qu'il vous a donné d'autres informations?
Non, il m'a dit la même chose que vous.
Mais qu'est-ce que vous avez compris?
Bah la crêpe dont on parle aujourd'hui pour la Chandeleur n'avait rien à voir avec la crêpe bretonne, la galette bretonne, oulala, il va revenir.
Non mais la crêpe, c'est pas la galette, mais c'est la crêpe, on parle de la crêpe aujourd'hui sur la Chandeleur. Non mais faut tirer au clair cette affaire, moi je suis extrêmement inquiet. Bon, Yvan, en revanche, ce qui est vrai, c'est que la crêpe qu'on fait à la maison, elle est d'une texture, même elle est d'une couleur, j'ai l'impression qu'elle est différente. Elle est généralement plus claire que la crêpe qui est dans le restaurant et qui paraît plus fine. Et pour tout dire, moi je préfère la crêpe familiale. Pourquoi cette différence?
La différence, c'est que comme les crêpes qui sont faites par les ménagères sont faites souvent à la poêle. Nous, on travaille, les professionnels, on va travailler sur bilique. Donc, c'est une plaque en fonte qui fait 40 cm. On va travailler ça avec un rosel, un râteau, qu'on appelle ça aussi. Le rosel, c'est en breton. Mais
c'est pas lié à la pâte, c'est lié donc à la manière de la cuire.
À la manière de la cuire. Puis comment vous allez la tourner? C'est-à-dire que nous, on va tourner finement, c'est-à-dire que plus vous allez étaler votre pâte, plus vous allez avoir une crêpe plus fine. Voilà.
Ah, d'accord. Mais il n'y a pas une question d'eau ou de lait?
Ah si, après souvent sur la crêpe, on va travailler avec du lait, voilà. Il y a plusieurs recettes. Hein. Chaque personne a chaque crêperie a différentes recettes.
Je suis d'accord avec vous. On vous entend pas très bien malheureusement, Yvan. Alors c'est pas confortable de vous écouter. Donc je vous propose de sécuriser peut-être la liaison et de parler à Nicole. Nicole qui fête la Chandeleur tous les ans. Bonjour Nicole qui habite dans les Charentes.
Bonjour Pascal. Oui, je suis à Gourville entre Angoulême et Cognac.
Eh bien donc c'est une terre de galettes et de crêpes peut-être.
Alors, des galettes, c'est les galettes salées, et les crêpes, c'est les crêpes sucrées.
Bon, et voilà. Aujourd'hui, quel est le programme?
Alors, quel est le programme ce soir avec mon mari, puisqu'on est tous les deux? Ce sera une galette salée, avec une tranche de jambon, champignons, un peu de crème fraîche et de gruyère râpée. Mmh. Et après, ce sera une crêpe sucrée, donc farine de froment, avec soit du sucre, soit du miel et du citron, et arrosé de Grand Marnier.
Ah oui, ça c'est pas mal. Donc vous allez chacun manger une galette et chacun une crêpe.
Oui, c'est ça. Et puis plus, si j'ai fait plus de pâtes, parce que moi je ne pèse pas ma farine depuis... j'ai 70 ans que j'ai eu la semaine dernière, et je fais des crêpes depuis l'âge de 10 ans. Mmh. Donc chez mes parents, on mangeait des crêpes tous les samedis soirs, parce qu'on avait des poules. On avait des groseilles, donc on faisait de la gelée de groseilles. Et mon père travaillait à Cagny dans une sucrerie. Donc on avait le sucre gratuit. Donc on avait juste la farine à acheter et le lait. J'avais pas de vache, donc on achetait le lait.
Bon, eh ben écoutez, vous nous donnez envie, chère Nicole, bien évidemment. Le problème, c'est que c'est pas le régime minceur, la crêpe.
Alors, un petit truc. Michel Simès en a parlé hier matin dans sa chronique avec Yves Calvi. Mettre que de la farine blanche, ce n'est pas très bon. Il faut couper la farine blanche avec de la farine de sarrasin. Parce que le sarrasin renferme 3 fois plus de fibres solubles que les pâtes, le riz ou la farine blanche. D'accord ? Donc, vous arrivez à satiété rapidement.
Et on fait quoi, 50-50 ?
Oui, on fait du 50-50.
Bon,
on fait du 50-50, c'est un bon truc, parce que, par exemple, le son d'avoine, c'est pareil. Bon, on n'en met pas dans les crêpes, mais pourquoi pas. Le son d'avoine, c'est pareil. Quand on boit en mangeant du son d'avoine, ça forme une sorte de gel dans l'estomac. Ça, c'est Michel Simès qui l'a très bien expliqué hier matin. Hein? Ouais. Donc après, on n'a pas de fringales, pas de grignotage. Hein? Et puis moi, je cuisine avec une tuile à crêpes, c'est-à-dire une poêle spéciale à tout petit rebord que je ne lave jamais. Ça, s'il y en a un de mes enfants ou de mes belles-filles qui me lave la tuile, là ça se passe mal.
C'est-à-dire qu'il faut pas laver la poêle.
Jamais, faut l'essuyer. Moi je mets un sopalin dessus, si je veux poser une autre poêle dessus, ça ne se lave pas. Parce que ça attache. Sinon les deux premières crêpes c'est pour ma chienne.
Il y a Greg Caratoni qui me parle à l'oreille, qui me dit que c'est dégueulasse. Non!
Qu'est-ce qu'il dit que c'est dégueulasse?
Pardonnez-moi, il me l'a dit à l'oreille, je le répète, mais c'est pas bien. Mais c'est vrai que peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui pensent ça. De pas laver, Greg.
Ah mais non, une tuile à crêpes, ça ne savent pas.
Greg, pourquoi vous avez dit ça?
Parce que si ça fait 30 ans que la poêle n'a pas été rincée, c'est vrai que ça paraît bizarre.
Mais non, elle est pas rincée. Une fois la dernière crêpe,
essuyée.
Vous laissez refroidir. Oui. Vous laissez refroidir. Mmh. Et vous essuyez avec un sopalin, on va dire la marque, j'arrive pas à trouver le mot.
Oui,
un sopalin.
Un
petit chiffon. Et
un
voilà,
chiffon
et vous faites comme ça, voilà. Et bon. Comme ça, votre tuile à crêpe, elle est propre, de nouveau pour servir. Elle peut rester des années comme ça. Elle n'est pas à la poussière, elle est rangée dans un placard. Qu'est-ce qu'il nous fait, Greg, là?
Oui, mais Greg, c'est un hygiéniste. Donc,
alors, pour les quantités, je dirais que je suis un peu comme le gouvernement, je navigue à vue, je pèse pas. Je mets dans mon saladier la valeur de... J'en sais rien, ça dépend si on est deux, si mes petits-enfants sont là. C'est le premier repas, quand mes petits-enfants qui sont en Picardie et à Toulouse arrivent à la maison en Charente. Mamie, tu nous fais des crêpes.
Mais c'est fou parce qu'on a tous été des enfants et on se souvient tous de nos grands-mères qui nous faisaient des crêpes.
Mais ça fait 60 ans que je fais des crêpes, moi, Pascal.
Oui, mais je suis d'accord avec vous, mais tous les enfants du monde aiment les crêpes. Il n'y a pas un gosse au monde qui n'aime pas les crêpes.
C'est pas cher. De la farine, du lait, des œufs, une confiture maison. Ouais. Coûte 3 fois rien.
Ça coûte combien le repas?
Le repas? J'ose même pas dire, mais je dois faire 50 crêpes pour 10 euros, moi.
Ouais. Bon, bah, merci beaucoup, Nicole.
De rien, Pascal, avec plaisir. Ah, plaisir à vous écouter.
Bah, je vais vous dire, moi, ça me fait plaisir de parler d'autre chose que de sujets graves. Alors, on peut sourire, bien évidemment, et dire pourquoi est-ce qu'il nous parle de crêpes pendant une demi-heure. D'abord, parce que ça nous fait plaisir, à Greg, à Laurent, à nous.
Voilà. Faut rigoler un peu. Vous voulez une petite blague, Pascal?
Oui, ah bah, si vous voulez.
Quel est le prénom de la fille de Guillaume Tell?
La fille de Guillaume Tell, je ne sais pas.
Taglia.
Taglia Guillaume Tell.
Non, Tagliatelle.
Tagliatelle. Ah oui, pardon. Tagliatelle. Ah oui, Tagliatelle.
Ah oui, moi j'adore les jeux.
Écoutez, avec brio.
J'adore les jeux et j'ai une page cuisine sur Facebook. J'ai une page cuisine. Bientôt 700 membres. Et j'organise des jeux, je fais des blagues, j'organise des jeux et je leur fais gagner des cadeaux.
Eh bien, madame, mets à descendre à une fille.
Madame.
Mais à descendre.
Mais à descendre.
À une fille.
Mais à descendre. Mais à descendre.
Edmé.
Ah oui. Ah oui.
À tout de suite.
Merci Pascal.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Alors j'ai beaucoup de gens qui nous envoient des recettes de crêpes maison pour 4 personnes, 500 grammes de farine, 12 œufs, je pensais pas qu'il y avait autant d'œufs quand même, 1 litre et demi de lait, 250 grammes de beurre, 10 grammes de sel et 100 grammes de sucre. Nous sommes avec Olivier, Olivier qui est crêpier gastronomique.
Bonjour.
La recette qu'on me donne, là, 500 grammes de farine et 12 œufs pour 4 personnes.
Moi, 12 œufs, c'est un peu énorme.
Bah, je trouve que c'est curieux, mais 12 œufs.
Ouais, c'est énorme.
Ah oui,
j'utilise 6 œufs pour 1 kilo de farine.
Ah oui, donc effectivement, pour 2 fois plus de farine, vous utilisez 2 fois moins d'œufs.
Tout à fait.
Donc là.
Après, il y a 36 recettes. Il y a autant de recettes qu'il y a de clochers en Bretagne. Donc, voilà. C'est ce qu'on dit, en tout cas.
Vous, votre crêpe, vous la préparez comment?
Il y a 36 000 façons de la préparer.
Parce que crêpier gastronomique, d'ailleurs, ça veut dire quoi?
Donc disons que c'est un grand mot, en fait. Les gens me considèrent comme un crêpier gastronomique. Parce que je prévois.
Vous avez mis un haut-parleur, là? Pardonnez-moi, Olivier. On va essayer de sécuriser, parce que c'est pas forcément très confortable, malheureusement. Donc, est-ce que ça passe mieux, là? Essayons de nouveau, Olivier.
Alors, voilà. C'est mieux.
Essayons.
Il y a un petit retour.
Bon, donc comment vous préparez votre crêpe?
Alors. Moi, je cuisine, je travaille dans la cuisine des plats traditionnels revisités sur la crêpe. Pour moi, la crêpe, c'est un support sur lequel on peut jouer énormément, avec la texture, le goût, etc. Et là-dessus, on fait un dressage joli sur une assiette. Voilà. Donc, ça peut être du poisson, ça peut être de la viande, ça peut être plein de choses, toute la cuisine. Voilà, la cuisine des terroirs, bien entendu. Voilà, avec les produits locaux. Et voilà. C'est comme ça qu'en fait, évidemment, on fait tout ce qui est le grand classique, jambon fromage, les complètes, etc. Mais après, on a quelques spécialités qui nous vont faire remarquer.
Par exemple?
Dans le monde de la crêpe. Alors, je travaille. Le poisson, par exemple, le poisson qui se marie très très bien avec la crêpe de blé noir ou la galette.
Du poisson avec des crêpes.
Voilà. Mais rien que. Alors, c'est un exemple. J'ai été chercher le meilleur poisson. Donc, souvent, je travaille des zones de ligne. J'ai la chance d'avoir un pêcheur.
Ouais, mais vous dénaturez quand même l'objet de la crêpe. La crêpe, pourquoi mettre du poisson dans la crêpe?
C'est justement un mélange de saveurs. Ça se mélange très très bien avec d'autres aliments.
Bon.
Voilà.
Et dernière chose, ce qu'on appelle les crêpes dentelles, et je ne vais pas citer de marque, et qui sont des petits biscuits comme ça, incroyablement craquants, et on peut en manger 50 000. C'est une crêpe au départ?
Oui, la base de la recette est quasiment la même. Après, il y a une.
Mais alors, elles sont séchées? Elles sont comment? C'est des biscuits?
Je connais pas trop comment ça se fabrique, la crêpe dentelle. Je sais que c'est sur un petit rouleau, et puis c'est une crêpe qui est séchée, quoi.
Bon ben merci beaucoup Olivier. Voilà. Merci Olivier. Puis j'ai poursuivi mon enquête puisque j'ai envoyé quelques textos à cet ami qui était arrivé tout à l'heure et qui avait fait une intrusion. Et il confirme, Greg Caranoni, il confirme, il dit non, la crêpe de la Chandeleur n'est pas la crêpe bretonne. Et mettre du Nutella en plus, c'est le pompon. Et beurre salé, point. C'est un intégriste de la crêpe, manifestement.
On peut essayer de le faire sourire peut-être avec un extrait.
Je vais vous prendre une crêpe au sucre avec une bière.
Ah non, 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 je m'excuse monsieur, nous ne faisons pas cela ici, vous êtes trompé d'établissement.
Vous avez de la pâte, vous avez du sucre. Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus.
C'est les bronzés fondus.
Bien sûr.
Et c'est mythique. Bon, il nous reste Bernard et puis on fera un petit débrief. Bon, voilà, on a essayé de parler d'autre chose que de cette actualité qui est si redondante ces jours derniers. Et on a fait une large séquence Chandeleur avec un peu de musique bretonne. Et on reviendra avec de la musique bretonne avec un titre. Ah, Nolwenn Leroy. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pour faire de bonnes crêpes, il faut du bon lait frais, d'une jeune et jolie et jolie.
Bernard est là. Bernard, bonjour, qui habite Paris. Pour, vous serez sans doute le dernier à nous parler des crêpes.
Bonjour. Bonjour Pascal. Alors juste pour planter le décor, je suis chef dans un restaurant derrière derrière les Invalides avec un col bleu blanc rouge. Vous voyez un peu, non? Voilà. Non. Derrière les Invalides.
Je vois peut-être. Ouais, bon. Je vois peut-être.
Ouais, voilà. Bon, les crêpes, bah, c'est une tradition. Puis moi, j'en fais tous les ans en la faisant sauter avec un weeder dans la main gauche. Mais à ce jour, ça a jamais marché, quoi. Voilà. Donc, mais c'est vraiment. C'est vraiment un produit de tradition, quoi, pour nous. Alors moi, je suis normand, mais c'est quelque chose qui se laisse pas passer, la Chandeleur, avec du bon lait et du bon beurre normand, on va dire.
Bon, là, il est 14h22. Est-ce que vous avez déjà mangé une crêpe?
Ah bah, je viens juste d'en manger une parce que hier j'ai fait 2 litres. Et si j'avais su, je serais passé vous en apporter. Vous auriez dû. J'aurais dû écouter RTL hier. J'ai pas écouté hier.
On n'en a pas parlé hier puisque c'était aujourd'hui à la Chandeleur. Ouais. Mais vous en avez mangé combien?
Alors, pour être très honnête, deux, à l'instant.
Paraît-il que si on veut manger du sucre, on peut manger du sucre. Mais il ne faut manger qu'un repas sucré. C'est-à-dire que le pire, c'est si vous mangez du sucre ou des gâteaux à la fin d'un repas. Donc aujourd'hui, vous faites plaisir, vous faites un repas 100% crêpes, par exemple. Oui. Et ça, a priori, c'est moins grave que si vous mangez ou si vous déjeunez classiquement et que vous terminez avec des crêpes. Mieux vaut manger 6 ou 7 crêpes d'un coup et puis après, vous passez à autre chose.
Et puis on passe à autre chose. Exactement. Voilà.
Mais merci Bernard.
Et puis ouais, bonne journée et puis à bientôt j'espère dans les restaurants.
Je l'espère effectivement dans les restaurants
et tout.
Merci beaucoup. Le débrief de Laurent Tessier qui a été particulier aujourd'hui puisqu'on a parlé de sa première
14h30.
Fois.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Je crois que c'est la première fois qu'on
débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
Vous voulez dire un truc?
Oui, parce qu'il y a des jingles partout. C'est la première fois qu'on parle de crêpes.
Dans les auditeurs ont la parole, c'est vous qui choisissez les sujets. Céline a poussé son coup de gueule ce midi.
Je suis allée chercher du pain à la boulangerie ce matin. Mmh. C'est écrit sur la porte, pas plus de 5 clients dans la boulangerie. Je me permets d'attendre que la 5e personne sorte pour rentrer. Il y a une dame qui me suit, donc on se trouve à 6. Et la dame me colle.
Et qu'est-ce que vous lui avez dit?
Faut se détendre, quoi. Je dis, vous pouvez vous éloigner. Elle a fait genre qu'elle n'entendait pas, vu son âge.
Ah oui, c'était une vieille personne.
Voilà, qui a rien d'autre à faire à midi d'aller chercher le pain, j'ai envie de vous dire.
Oh, polémique en vue. Mais ce qui vous a mobilisé au 3210, c'est ce sujet.
C'est la Chandeleur, amis.
Et oui, vous avez eu une envie.
C'est une édition spéciale crêpe qu'il faut faire aujourd'hui.
Édition spéciale, oui. Sortons le sucre, la pâte à tartiner, la confiture. Plein de bonnes choses qui nous redonnent le sourire.
Ce n'est pas diététique. Hein,
ah bon
pas... Ah bah ça a fait un peu grossir les crêpes. C'est, c'est du sucre, c'est du beurre. C'est joli d'ailleurs ce mot Chandeleur.
J'aime la galette, savez-vous comment?
Et une question vous travaille aujourd'hui, Pascal.
C'est dur à faire les crêpes ou pas?
Très facile.
Ah bon?
Je vous montrerai.
Oui,
très simple.
Mais quand?
Mais il faut être patient.
Et vous n'êtes pas sûr que je le sois?
Eh bien justement, rassurez-vous, Christine nous a donné sa recette.
C'est une recette toute simple que je n'ai pas inventée. Je ne sais pas de qui elle tient, peut-être de ma mère à l'époque.
200 g de farine, 1 ml de lait entier, 2 œufs, bon, éventuellement de la fleur d'oranger et une petite pincée de sel. Voilà, c'est tout.
Voilà, efficace. Et si vous n'êtes pas fan des crêpes, nous vous proposons avec Céline un autre goûter.
On va se laisser, on va se quitter.
Oui, moi j'allais faire mes tourtisseaux, vous voyez.
Vos quoi ?
Mes petits sous.
Tes petits sous ?
Des tourtisseaux.
C'est quoi des tourtisseaux ?
Les tourtisseaux, alors ça a d'autres noms, botro.
Ah, les botros !
Ah, on adore les botros, mais revenons aux crêpes. Lors du flash de midi d'Olivier Bois, j'ai entendu cette phrase.
D'ailleurs, on en attend à RTL ce midi, normalement.
Ouais, sauf qu'il est 14h25, nous n'avons toujours rien vu des crêpes. Merci à Olivier Bois, présentateur des flashs sur RTL, de nous apporter les crêpes. Merci de ne pas tout garder pour lui. Et notre directeur de la rédaction, Philippe Rey, rendez-vous au Studio 11 immédiatement. Et voilà, on aime rire dans l'émission, ça fait du bien. Quelle est la blague du jour ?
Quel est le prénom de la fille de Guillaume Tell ?
La fille de Guillaume Tell, je ne sais pas.
Taglia.
Taglia Guillaume Tell.
Non, Tagliatelle.
Tagliatelle, elle était pourtant efficace cette blague. Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. Une chanson.
Taglia, c'est pas un prénom, Taglia.
Taglia, elle était très bonne quand même cette blague. Chanson circonstance, Pascal, pour terminer le débrief. Et accompagner nos crêpes.
Je rappelle que la Bretagne existait avant la France. Faut-il le rappeler ? Nous le disons souvent avec quelques amis bretons. Mais bon. Nous sommes désormais français, nous bretons, puisqu'Anne de Bretagne, comme vous le savez, s'est mariée avec un roi de France. Et la Bretagne fut rattachée à la France.
Et son magnifique château.
Le château des ducs de Bretagne. Flavie Flamand est là. Est-ce qu'elle aime les crêpes, Flavie ? Oui, sans doute. Ah, tout le monde aime les crêpes. Elle ne parle plus aujourd'hui. Elle ne bouge plus là. Elle ne bouge plus.
Le depuis problème, c'est que quand elle n'est pas en studio, c'est vrai que pour elle, c'est difficile de répondre.
Des informations tout à fait particulières sur son couple. Elle ne parle plus. À tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL.